et bienvenue dans cette nouvelle émission de Je vais au ciné, une émission qui va parler de cinéma évidemment. Avec moi aujourd'hui j'ai Mickaël.
Bonjour.
Bonjour Mickaël, tu peux nous dire par exemple que tu fais un podcast sur le cinéma?
Oui, en effet, je suis pas tout seul, hein. On fait un podcast sur un film. En fait, on est quatre, dont notre cher collaborateur qu'on n'a pas encore entendu, mais qu'on va entendre tout à l'heure. On choisit un film à tour de rôle et on le décortique. Voilà, c'est bon enfant.
En fait, il y a une émission sur quatre qui est bien. C'est quand c'est moi qui présente un film plus que les autres, ça va, on est droit à quoi là? À Philibert, à Queen, ouais, super.
Bon, il a des choix assez arrêtés en termes de film. Michael Bay est un film d'auteur pour lui. C'est compliqué.
Comment s'appelle cette émission?
Ça s'appelle Critique-moi si tu peux.
D'accord. Bah, merci. Antoine
Bonjour.
Est avec nous aussi et tu es à Critique-moi si tu peux, mais tu fais aussi un autre podcast.
Ouais, alors ça, c'est avec des gens de Grenoble.
Ouais. Qui s'appelle Écran Total.
Si c'est ça. Et en fait, c'est le même sujet que Critique-moi si tu peux. D'ailleurs, c'est eux qui nous ont piqué.
Pop.
Voilà.
Vous traitez 8 films, hein. Nous on en traite qu'un.
Et voilà, ouais, c'est pareil, c'est rigolo.
Donc cette émission va se découper en plusieurs parties. La première partie, ça va être Antoine qui va nous faire sa chronique.
Ça va être moins rigolo.
Voilà. On va passer par une petite pause musicale. Ensuite, on va avoir une intervention de Antoine Rusbach qui a fait le film Ceux qui travaillent. Et puis on aura à nouveau une pause musicale, hein, et on reviendra parler de films qui sont sortis récemment et ce qu'on en pense, et puis on finira là-dessus. Donc j'ai toujours une petite surprise pour mes chroniqueurs. Et on va commencer les hostilités avec
Hostile Colis.
Donc tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
De Mummy de Xavier Dolan. Alors, lors de l'enregistrement des épisodes pilotes, le fils d'un piano et d'une cornemuse, le bien nommé Michael, qui est en face et qui... Voilà, tu poses ton téléphone, s'il te plaît, quand je parle, un petit peu de respect pour tes collègues. Donc, a blasphémé en disant du mal de Mummy de Xavier Dolan. Laisse-moi donc, auditeur, Laisse-moi donc te parler de ce chef-d'œuvre. Pour moi, ce film est la quintessence de ce que je recherche dans une œuvre cinématographique, une bonne mise en scène et des émotions fortes. Ce film m'a ravagé le cerveau à un point qu'encore aujourd'hui, 5 ans après, je ne suis toujours pas sûr de m'être remis. Et maintenant, une simple chanson de Céline Dion peut me faire basculer et me faire titiller la glande lacrymale comme jamais il n'aurait été possible avant pour la Québécoise.
Ah, c'est donc ça.
On comprend mieux.
Vous êtes insensible. C'est fou ça. Un film est avant tout une rencontre entre deux univers, celui du spectateur et celui du réalisateur. Et avec M. Dolan, notre rencontre a eu lieu un soir devant la télé, lorsque ce jeune homme de 24 ans seulement montait sur scène récupérer sa récompense. Lors de son discours de remerciement, après les banalités d'usage, merci machine et merci machin, il interpelle Jeanne Campion, alors présidente du jury, pour lui dire à quel point son film, La leçon de piano, l'a marqué. Ensuite, il s'adresse aux gens de sa génération, génération dont je ne fais pas partie, et en gros, il leur dit « Quand on veut, il ne faut jamais rien lâcher, malgré tous les barrages qui se mettront en travers de notre route. » Alors oui, dit comme ça, ça semble un peu naïf et un peu concon aussi. Hein. Mais ce soir-là, son discours a su me toucher et je n'en étais que plus curieux de découvrir son film. La vidéo est disponible sur le net et si vous êtes curieux, je vous invite à la regarder.
On ira à la fin de la chronique quand même. Hein.
Non, pas tout de suite, pas tout de suite.
Ouais, pas tout de suite.
Quel grand sage vous faites. Avec mes amis, il nous arrive souvent de nous prendre la tête sur la question suivante. Un film doit-il être vu sur grand écran pour être apprécié à sa juste mesure? À ce jour, cette question reste toujours sans réponse. Je n'ai jamais réussi à bien négocier pour aller voir le film au cinéma. Pour mon entourage, alors mon entourage et ma femme. Les mots « Cannes, prix du jury et accent québécois » sont beaucoup trop. Et elle n'a jamais réussi à vouloir y aller. Lorsque le film est sorti en Blu-ray, je l'ai acheté sans vraiment savoir si j'allais l'aimer. Et après moult tractations du genre « on regarde ce film et en échange on ira voir 3 comédies romantiques », j'atteignis enfin mon but. Et maintenant, avec le recul, j'ai l'impression d'avoir plus galéré pour faire regarder ce film à ma femme que pour l'excellent Inconnu du lac d'Alain Giraudy. Donc il faut absolument que je vous fasse une chronique.
On a hâte.
On attend ça avec impatience.
Ouais.
Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous le résumer rapidement. Donc, Diane, Anne Dorval, va récupérer son fils Steve, Antoine-Olivier Pinon, à l'institut psychiatrique dans lequel il avait été placé et dont il vient de se faire virer pour comportement irresponsable et dangereux. Il vient simplement de mettre le feu à la cantine et de blesser gravement un de ses résidents. Diane n'a pas vraiment les épaules pour cadrer son fils et tout va partir en sucette. Jusqu'à l'apparition de sa voisine, Kayla, donc Suzanne Clément, qui elle souffre de dépression à cause de son boulot. Au contact de Kayla, Steve va s'apaiser et se calmer, et une espèce de triangle amoureux plus ou moins malsain va alors se créer.
Un bon film de samedi soir, aux petits oignons.
Parfait comme il faut. Afin de montrer donc l'oppression et l'angoisse dans laquelle vivent les personnages, le réalisateur a choisi un format d'image carré. J'ai cru naïvement que Dolan avait inventé ce format, mais après quelques recherches, je me suis rendu compte que non. C'est un format pas très courant, mais qui reste quand même utilisé. Malgré cet univers oppressant, le personnage principal va réussir à être heureux et joyeux de vivre. Pour le montrer à l'écran, le réalisateur va avoir une idée osée en cassant ce que l'on pourrait appeler le quatrième mur. Steve va littéralement pousser les bords gauche et droite de l'image pour passer au format 1/85e, format que je vais grossièrement appeler 16/9e, sachant que le ratio du 16/9e c'est plutôt 1/77e. Enfin bon. À ce moment-là, du film, les personnages sont heureux et l'on est aussi heureux avec eux. Ils font du vélo ou du skate et la route leur appartient. Comme rien n'est parfait en ce bas monde, il n'y a qu'une fausse note sur ce plan, excusez-moi le jeu de mots, c'est l'utilisation de cette musique. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you not to do. I don't believe that Je suis sûr que ceux qui ont vu le film ont les images en tête là. Enfin, soyons honnêtes, il aurait pu faire pire en mettant du Hans Zimmer. De toute façon, tiens Mika, c'est pour toi ça. Non, non, là, fausse note.
Ah.
C'est après, il spoil. Soyons honnêtes, il aurait pu mettre du Hans Zimmer. De toute façon, le plan est tellement fort qu'il marcherait avec toute autre musique. D'ailleurs, tu as mis du Céline Dion, ça marchait aussi.
Ouais.
Ne boudons pas notre plaisir, nous sommes heureux, d'autant plus que quelques minutes après, arrive le facteur annonciateur d'une mauvaise nouvelle et par l'embrasure de la porte, l'image va retrouver son ratio initial de 1 sur 1 sans que l'on y prête bien garde.
Un peu de tape à l'œil.
C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Mais Monsieur Dolan ne va pas s'arrêter là. Arrive la scène de la danse. Une scène beaucoup moins tape à l'œil, Monsieur Michael, mais tout aussi efficace. Une simple danse entre les trois protagonistes, située dans la cuisine. Rien de bien terrible dit comme ça, mais après Oasis, il va utiliser cette musique-là. Alors là, une question m'assaille. Est-ce que Céline Dion est déjà passée sur Studio Zep?
Je ne sais pas.
C'est peut-être une première mondiale.
Je demanderai aux gens qui sont là depuis longtemps.
Malgré ce qu'on pense de la diva, je vous mets au défi, en voyant le film, de ne pas avoir l'œil qui tremble à ce moment-là. Et même si un petit moment de honte m'envahit, je dois bien avouer qu'il a réussi à me faire pleurer sur du Jean-Jacques Goldman. Alors seul le fils d'un marteau et d'un coin de porte situé en face de moi, le toujours bien nommé Michael, est resté de marbre durant cette scène. Après deux grands moments comme ça, il aura pu s'arrêter là, mais non. À la fin, si émotionnellement nous sommes déjà à terre, il va finir nous achever par une autre scène. Scène d'autant plus forte qu'elle reste d'une sobriété éclatante. Les personnages font un pique-nique et la mère est en retrait. Elle fume une clope et regarde son fils. Je suis sûr que si vous avez vu le film, vous avez les images en tête. Elle regarde son fils jouer avec Kayla. En tant que spectateur, on ne sait pas ce qui va advenir du futur de Steve. Il nous faudra plusieurs minutes avant de comprendre que les plans qui défilent sous nos yeux, où l'on voit un Steve adulte, heureux et épanoui, ne sont en fait qu'un rêve perdu. Musicalement, c'est grandiose. Fini la chanson populaire, place au titre « Expérience » du compositeur italien Ludovico Einaudi. Alors, compositeur que l'on a pu connaître dans le film « Intouchable ». Et là, une fois de plus, l'association entre l'image et la musique marche à merveille. Ma chronique touche à sa fin, et je doute que Mika soit revenu sur son point de vue initial. Mais
pas du tout.
Mais auditeur, tu auras compris que si tu n'as pas encore vu Mummy et que tu as des limites vis-à-vis du film, le format de l'image ou de l'accent, eh bien dépasse-les. C'est à ça qu'elles servent. Et alors, tu te retrouveras face à un grand film dont j'espère tu te souviendras des années durant.
Merci Antoine pour cette chronique. On va écouter maintenant Ludovico Einaudi sur le morceau Expérience.
C'est beau.
Qui est extrait du film, je suppose.
Non, c'est un autre film.
C'est pas une musique originale, c'est un pianiste qui écrit de la musique dite entre guillemets minimaliste. D'accord. Et sa musique est très utilisée dans les films ou dans les séries.
D'accord, eh ben on va s'écouter ça.
Oui, auditeur, nous sommes bien sur Radio Suicide. L'antenne est ouverte et maintenant nous allons donc recevoir l'appel de Jean-Paul les fenêtres.
Non, ouais. Oh, c'est non, honteux ouais. Ce jeune mot. Oh, c'est honteux.
Ça va aller. retour d'antenne compliqué. Nous allons passer un extrait de Antoine Rosbach où il était au Lobis à Blois. On va entendre aussi Romain qui lui pose la question, Romain Delobis, qui viendra certainement dans l'émission dans les prochaines émissions.
Semaine.
Ça suffira. Je vais essayer de lancer ça et puis on se retrouve juste après.
Moi, ce que je voulais savoir, c'était un peu, déjà, quelle était pour toi un peu la jeunesse du film, dans un premier temps, et dans un second temps, comment est-ce que tu as réussi à convaincre Olivier Gourmet, qui, on a l'impression qu'il aurait pu être personne d'autre que lui dans ce rôle.
Alors, bonsoir. Alors, la genèse du film... en fait, au départ, ce film ne devait pas être un film autonome. Ça ne devait pas être un long métrage comme celui que vous avez vu, parce que j'avais commencé à écrire un projet quand j'étais sorti il y a peut-être 10 ans. Je sortais d'école de cinéma. En fait, c'était il y a 15 ans que je suis sorti, mais... Non, 10. Et j'avais commencé à écrire un projet de film choral, c'est-à-dire c'est des films avec plusieurs histoires, plusieurs lignes dramatiques qui se croisent. C'est souvent des films qui durent 3 heures, 3 heures et demie. Et le projet que j'avais commencé s'appelait « Ceux qui travaillent, ceux qui combattent et ceux qui prient ». Et c'était une forme assez encombrante et c'était compliqué pour moi d'arriver au bout. Et c'est un film que j'ai finalement décidé de scinder en trois. Et le film que vous avez vu ce soir en est extrait. Et ceux qui travaillent, ceux qui combattent et ceux qui prient, le point de départ de ce projet-là, en fait, ça faisait référence à la construction de la société médiévale, avec ceux qui travaillent, qui étaient les paysans, le tiers-état, donc ceux qui nous nourrissent. Ceux qui combattent faisaient référence à la noblesse qui nous défendait. Et ceux qui prient faisaient référence au clergé qui s'occupait de notre vie spirituelle. Et la question de cet ancien film était de savoir qui remplissait ces grandes fonctions essentielles à la société, mais aussi de parler du rapport de l'individu et du collectif, en se posant la question de l'idée était de dire que dans une société traditionnelle où chacun savait à quoi il servait, c'est-à-dire que le rôle de l'individu dans la société était très clair. Et aujourd'hui, dans une société libre et démocratique, on n'est jamais sûr de savoir si on sert à quelque chose et on n'est non plus jamais sûr d'être arrivé là où on devait. C'est-à-dire qu'on nous fera toujours sentir qu'on peut faire mieux, peut-être. Et donc il y a une espèce d'angoisse du vide de sa place dans la société qui vient avec quel prix à payer pour la liberté pour être adulte. Voilà. Et donc, me rendant compte que ça allait être très compliqué d'aller plus loin avec ça et que ne m'en sortant pas avec ce scénario-là, j'ai embauché le co-scénariste de ceux qui travaillent, Emmanuel Marre, avec qui j'ai fait mes études et qui est un ami et un très bon réalisateur aussi. Et ensemble, on en a fait un film. Voilà. Et ce film pose toujours la question de qui nous nourrit. Et donc, c'est un film sur la consommation. Et il répond à la question de qui littéralement remplit les rayons de nos supermarchés. Et à partir de là, on a commencé à donner chair aux personnages, aux propos, se positionner par rapport à la représentation qu'on allait faire du travail, du monde, de cette violence mondialisée. Et donc voilà, ça, c'est le point de départ. Voilà, à partir de quoi on a construit. Donc c'est assez, le point de départ est assez théorique et après il fallait lui donner chair. Alors je fais une petite ellipse de 3 ans. Donc on a finalement réussi à écrire ce film. On a rencontré plein de gens, on a découvert cet univers, on a vraiment creusé sur comment est-ce qu'on allait se positionner, qu'est-ce que racontait ce film, quelle position on laissait aussi au spectateur dedans, etc. Et sans penser à un comédien. Le but, c'était de ne pas avoir un comédien en tête parce que j'avais très peur de si j'avais un comédien en tête dès l'écriture, que je projette trop. Déjà, je pensais que j'avais le sentiment que ça allait limiter les possibilités des choses que je pourrais écrire. Et puis aussi, j'avais très peur que le comédien auquel je penserais pendant des années me dise non. Et après, je ne saurais plus du tout quoi faire parce que ce serait trop décevant. Et j'avais aussi peur que si je devais prendre alors un autre comédien... Le nouveau comédien sente que c'était pas lui qui était pensé pour le rôle. Donc je m'étais vraiment forcé à penser à personne. Et c'est très intéressant aussi de confronter un scénario à différents comédiens possibles. Parce qu'à chaque fois qu'on confronte le scénario, ici, on a l'impression que ça ne pourrait être personne d'autre que lui. Et pourtant, d'autres comédiens auraient fait un autre film. Et on se serait peut-être aussi dit, ça ne pourrait être personne d'autre que lui. Et je me suis arrêté sur Olivier Gourmet parce que... j'ai hésité jusqu'à très tard sur l'âge du personnage. Pour moi, il aurait pu avoir 45 ans pendant quelques versions. Et c'est après avoir discuté avec un homme qui travaille dans une multinationale et qui me dise que l'élément le plus soumis de sa boîte était l'homme de 55 ans, parce qu'il a construit une vie à un rythme tel qu'il ne peut plus s'en passer, mais aussi parce qu'il est trop loin de la retraite en même temps pour y aller directement, qu'il a une espèce de fragilité très particulière. Et je trouvais ça intéressant pour le personnage de Franck. Et donc, en voyant les comédiens de cet âge-là, je me suis tourné vers Olivier Gourmet parce qu'il en fait, il avait tout du rôle. Et j'avais même peur des fois qu'il ait l'impression que j'ai lu sa page Wikipédia pour écrire le personnage, ce qui n'était pas du tout le cas. Tellement ce passé agricole, etc., c'est quelque chose qui... C'est sa vie à lui. Donc j'étais un peu gêné, en fait, de ça. Mais j'avais... Ce qui m'a attiré chez lui, c'était déjà son jeu, etc., mais aussi le fait qu'il avait... déjà interprété des personnages qui commettaient des actes apparemment indéfendables et monstrueux. Et je savais qu'il allait, qu'il aimait défendre l'indéfendable. Et il me fallait impérativement pour ce projet un comédien qui n'allait pas essayer de sauver le personnage à peu de frais pour essayer de s'en dissocier en disant non, mais en fait, je veux toujours jouer quelqu'un de positif. Ce qui arrive très vite chez les comédiens, c'est assez triste à voir, en fait, aujourd'hui, c'est que c'est très dur pour un comédien d'endosser ça, en fait. Donc ça parle beaucoup aussi de la dissociation entre le personnage et l'acteur. Et puis j'avais aussi très peur d'avoir quelqu'un qui allait se dissocier différemment du personnage, c'est-à-dire de le diaboliser, voilà, d'en faire une caricature, une figure du mal, et de ne pas l'incarner. Voilà. Et donc là-dessus, on s'est tout de suite mis d'accord avec Olivier, dès notre première rencontre, sur la vision qu'on allait faire de l'homme dans ce film-là. Et on était d'accord sur le fait que c'est facile de se dire humaniste quand on présente l'homme sous son plus beau jour, mais ce n'est pas très intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est hypocrite. Ce qui nous intéressait, c'était d'aimer l'homme avec sa part d'ombre et de lumière. Et c'est ça l'exercice difficile qu'il allait devoir faire. Et c'est un exercice, voilà, c'est quelque chose c'est un engagement qu'il a pris au début, et c'est un engagement qu'il a tenu dans chaque plan, il a fait ce travail qui est celui de comprendre, voilà, pas essayer de condamner ou de sauver, mais de comprendre.
Nous voilà de retour, c'était Antoine Rosbach pour le film Ceux qui travaillent, avec en rôle principal Olivier Gourmet, que vous pouvez retrouver au Lobbies cette semaine, et au moins jusqu'à mercredi, peut-être même après. C'est son premier long métrage, pour resituer les... Et puis voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? C'est un très bon film.
Tu l'as vu?
Oui, je l'ai vu, j'étais à la séance juste avant. C'est un très très bon film sur le travail et sur le monde du travail. Donc c'est très intéressant, on apprend des choses, et puis puis c'est une fin ouverte.
Je crois que c'est une trilogie, non?
Il voulait en faire une trilogie, il va en faire, je pense, une trilogie, mais c'était son travail de fin d'études, donc il va certainement en faire quelque chose après, et sans doute faire deux films après, c'est ce qu'il essaye de faire. Après, il faut qu'il trouve les finances. Enfin, c'est comme tout, hein, c'est écrire le scénario, trouver les finances.
Ouais, il faut qu'il se bouge le cul, en fait. Oh, il connaît, c'est long,
Voilà. Que dire de plus? C'est tout. Et puis, je pense qu'on va passer une musique du genre.
Un truc gay?
Un truc
le petit bonhomme
mousse. Ouais, on peut passer. All I Want Is You de Barry Louis Polisar, qu'on trouve dans le film Juno. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me?
your arms and sway me like the sea. Tall, the rumble of your water would be my call. If you were the winter, I know I'd be the snow, just as long as you're with me when the cold winds blow. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. If you were a wink, I'd be a nod. If you were a seed, well, I'd be a pod. If you were a floor, I'd wanna be the rug. And if you were a kiss, I know I'd be a hug. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. If you were the wood, I'd be the fire. If you were the love, I'd be the desire. If you were a castle, I'd be your moat. And if you were an ocean, I'd learn to float. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea.
Nous voilà de retour pour cette émission. On va parler de films et plus particulièrement des films récemment sortis. Je commence les hostilités ou quelqu'un veut commencer ?
Vas-y, on est prêt.
Récemment, il est sorti au mois de septembre dernier le film Funan de
Denis. Aujourd'hui, alors. Non. Septembre dernier, c'est.
On est en octobre.
Ah, désolé.
Funan, c'est un film d'animation qui se passe. Alors, c'est très très joyeux comme film, puisque ça se passe pendant les Khmers Rouges au Cambodge, où c'est une famille qui est déportée et qui finalement ont des parcours un petit peu différents. On suit plus particulièrement la mère de famille qui essaye de retrouver son enfant. Et dans ce film, qui est un premier film, il me semble, un premier long métrage aussi de Denis Do, ça le touche particulièrement puisqu'il est d'origine cambodgienne. C'est un film à multitude de pays derrière. Je crois même qu'il y a un ou deux studios derrière. Enfin bref, c'est un beau film, difficile mais beau. Il est simple, les dessins sont simples, l'animation est bien faite, la réalisation est bonne.
Alors, quelle est ta définition du beau ?
C'est simple, c'est pas un Disney, parce que le budget était
non,
pas
mais
là.
Tu parles de beau en esthétique ou beau en sentiment ?
Les deux, mon capitaine.
Parce que des fois, beau en sentiment, c'est-à-dire que tu chiales à la fin. Et...
Un peu quand même, celui-là. Ouais, tu chiales
donc, il est émouvant.
Il est émouvant, mais il est graphiquement, il est beau aussi. Voilà, donc je vous le conseille si vous l'avez pas vu, il est disponible un petit peu partout.
Tu nous en avais déjà parlé quand on avait fait les pilotes.
Ouais. J'en reparle parce qu'il est sorti là récemment, donc voilà, j'en profite. Est-ce que vous partez sur un film ou je continue?
Moi, je peux partir sur un film qui sort, qui est sorti en septembre en VOD. C'est un film d'animation, comme ça on va rester dans le thème. Hein. Voilà. C'est Lise et l'oiseau bleu.
Ah oui, je ne l'ai pas vu, j'aimerais bien le voir celui-là.
J'ai été le voir quand il a été diffusé au ciné Les Lobbies, ouais. Un placement de produit. Au moment de la semaine Annabi, pardon. Bref, tout ça pour dire que ce film est très très sympathique. Après, je pense que comme bonne partie des films d'animation japonaise, pour bien l'apprécier, il faut avoir 2-3 notions de base sur la culture japonaise. Rien de bien compliqué, mais 2-3 notions de base pour pas s'énerver après les personnages qui peuvent rester un petit peu stoïques, qu'on a un peu envie de les secouer si on est habitué aux films un peu plus occidentaux, notamment américains, où l'expression des émotions sont un peu plus extravagants. Mais ça reste un très bon film sur l'adolescence. Rapidement, l'histoire, en fait, c'est deux jeunes lycéennes, une très renfermée, une très sociable, qui se retrouvent autour de la musique. Il y en a une qui joue de la flûte, l'autre qui joue du hautbois. Et elles vont apprendre à se connaître et surtout apprendre à se laisser partir chacun de leur côté au travers d'une présentation de fin d'année où elles doivent jouer un morceau en duo. Voilà, en gros, sans trop spoiler le film. Et voilà, la réalisation est toujours au top, comme très souvent dans l'animation japonaise. Ouais, l'histoire est très, très gentille.
J'ai vu des ratés, hein, donc...
Oui. Mais en général, ceux qui viennent jusque nous, c'est pas ceux qui ont pas marché chez eux.
Pas forcément. Moi, j'en ai vu un qui était pas bon, même au niveau animation.
Enfin, ah ouais?
C'est une horreur. Bon, bref, on va passer...
Bref. Et non, franchement, c'est un très bon film. Voilà, que je vous conseille si vous êtes friand d'animation japonaise et que vous voulez avoir un petit peu d'émotion et si la musique vous parle, allez-y.
Je tiens à préciser quand même que c'est de Naoko Yamada et que c'est un film qu'on vous conseille. On va peut-être se quitter là-dessus et se retrouver la semaine prochaine, même heure. Le lundi 14h, comme tous les lundis 14h.
J'avais un film, mais je vois que je suis bridé, ok.
Non, mais t'en parles la semaine.
Bridé. Les blagues racistes, c'est fini.
Non, mais c'est pas bon, ça. C'est pas bon. De toute façon, tu pourras le faire la semaine prochaine.
Ouais, moi, je vous parlais des aventures de Philibert, capitaine Puceau. Mais c'est dommage, on te dessine. Il n'y a pas le temps. Dommage. Alors, dommage, il est bien, il n'est pas bien, on ne sait pas. On saura jamais.
C'est triste. On se retrouve la semaine prochaine, lundi 14h, comme toutes les semaines. Et puis, passez des bons moments au cinéma.